Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être au rendez-vous de Radio Foot International du Café des Sports hebdomadaires avec nos invités qui sont déjà là, Rémi Ngono et Xavier Barré notamment. Bonjour messieurs.
Bonjour Annie,
bonjour. Bonjour, bonjour Xavier Barré qui cherche où garer son vélo.
Hein, il est revenu. Oui, bon, bah, c'est l'éternel feuilleton avec Xavier Barré.
C'est Xavier bien garé. Xavier garé et bien garé.
Il est garé. Patrick Juillard est là aussi du site Foot Africa 365. Bonjour.
Bonjour Annie et bonjour à tous.
Et puis Antoine Grenier est à mes côtés. Bonjour Antoine.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Il fait le petit réfé aujourd'hui.
Hein, ah, réfécito.
Réfécito. Non mais il y en a déjà un, je crois, réfécito. On va trouver un autre mot. En tout cas, nous évoquerons aujourd'hui bien toutes ces équipes qualifiées pour la Russie. Et elles sont là, les 32 sélections nationales. Parmi lesquelles des surprises et aussi de grandes absentes. En Afrique comme en Europe, des 5 équipes africaines, une seule a participé aux précédentes éditions. En Europe, l'Italie et les Pays-Bas, des habitués de la phase finale, manqueront le rendez-vous de 2018. Quelle raison à ces absences? Y a-t-il des points communs? Nous essaierons de les trouver. Des derbies à travers l'Europe, à Madrid, à Londres, à Rome, des rencontres teintées de rivalités locales avec des enjeux nationaux évidemment, au classement et parfois des enjeux très importants. Et puis les Verts dans une mauvaise passe, l'équipe de Saint-Étienne reprend la Ligue 1 avec un nouvel entraîneur, l'ancien Stéphanois Julien Sablé, qui n'est pas là seulement pour assurer la transition, nous disent les dirigeants. Faut-il les croire? Ce club au passé glorieux manque-t-il d'ambition? Eh bien, nous essaierons de comprendre ce qui se passe du côté de Saint-Étienne. Avant de lancer les débats, une information à tous nos auditeurs et à surtout tous ceux qui pratiquent le football, où que ce soit, les week-ends ou le soir, et à tous ceux qui vont voir les matchs. Quel terrain fréquentez-vous? À quoi ressemblent surtout les terrains de foot où vous vous amusez? Envoyez vos photos de matchs ou de petites vidéos à RFI à cette adresse. Tous les terrains du monde, évidemment terrain au pluriel, tous les terrains du monde, @rfi.fr. Ma RFI s'occupera de tout ça et nous en parlerons aussi dans Radio Foot. Radio Foot, le café des sports, les débats sont ouverts.
Et tire peut-être du Nigeria. Sur ce coup franc! Et le but, magnifique coup franc! Iheanacho permet au Nigeria de marquer juste avant la mi-temps. Iheanacho maintenant occasion là pour le Nigeria, le centre en retrait et l'égalisation. Iwobi vient tromper Marc Essien, mené 2-0. Et bien le Nigeria égalise, très très beau but. On va bien jouer encore avec le contrôle orienté et la frappe. Le troisième but pour le Nigeria. Quelle surprise! On va mettre Moussa là encore en retrait vers Iwobi, magnifique. Iwobi, l'enchaînement, but splendide pour le Nigeria. 4-2 pour les Super Eagles.
Et oui, Alex Iwobi et ses camarades Super Eagles qui ont battu les Argentins au cours de la semaine en match amical un peu au fin fond de la Russie. Ils se sont habitués aussi au terrain russe, ces Super Eagles, puisqu'ils seront de la fête. Le Nigeria s'est qualifié avant tout le monde. Donc, parmi les 5 équipes du continent africain, cette victoire sur l'Argentine, c'est un avant-goût de leurs ambitions, Patrick Juillard.
C'est une très grande performance collective parce que sur ce match, Notre Or avait décidé de calquer son organisation tactique sur celle de l'Argentine pour un petit peu s'adapter au jeu de l'adversaire et lui poser des problèmes. Le Nigeria a d'abord beaucoup trop subi, mais en étant mené 2-0 assez rapidement, et on se disait que le match allait être à sens unique, qui risquait même une grosse correction. Et puis,
ça a changé de sens.
Vraiment, le match a changé d'âme complètement, et le Nigeria a été d'une efficacité et d'une qualité de jeu assez bluffante. Des offensives très bien construites, des buts très spectaculaires avec souvent des très belles préparations, des gestes de grande classe, notamment de Iwobi dont on vous avait parlé.
Le neveu de
JJ Okocha, bon sang ne saurait mentir. Et d'ailleurs, en qui Arsène Wenger croit beaucoup, puisqu'il le fait pas mal jouer avec Arsenal. Hein. C'est pas juste un simple remplaçant, c'est un joueur qui a un bon temps de jeu. Et moi, je trouve que cette équipe est vraiment, pour moi, pour l'instant, celle qui est, si le mondial devait commencer, mettons, dans 15 jours, c'est cette équipe-là qui serait la plus à même d'aller loin. Après, les autres ont aussi des bons effectifs, mais alors, c'est le Nigeria qui est le plus prêt.
Il y a quand même
l'instant.
Une chose à préciser, c'est que l'Argentine jouait sans Messi.
Certes, mais le Nigeria jouait sans Victor Moses et sans ses deux gardiens titulaires. C'était le gardien numéro 3 dans les buts, d'ailleurs, qui a fait quelques erreurs en début de match.
Je remarque juste que Patrick Juillard a dit quelque chose d'aimable sur Wenger et que Rémy Ngono n'a pas encore bondi sur lui, donc il est probablement encore endormi.
Je suis pas un anti-Wenger primaire, moi, Xavier.
Je le sais.
En tout cas, dans ces 32 équipes nationales, donc, qui seront en Coupe du Monde, les absences notables, on le disait tout à l'heure, Italie, Pays-Bas, mais aussi Chili. Alors, on va s'arrêter d'abord sur celles qui sont absentes en Afrique, parce que le Ghana, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, qui étaient lors de la dernière compétition présents, eh bien, ils ne sont pas là. L'Afrique a renouvelé 4 des 5 participants. Alors, rappelons-les, peut-être les 4 autres que le Nigeria, Antoine.
Pour 2018, y a le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et l'Égypte. En 2014, c'était le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et l'Algérie.
Et en 2010, c'était les mêmes 5 équipes qu'en 2014. Ça n'avait pas changé du tout d'une Coupe du Monde à l'autre.
Voilà, donc gros renouvellement.
Un renouvellement général qui ne concerne pas que l'Afrique, puisque sur les 32 équipes présentes en Russie, il y en aura 12 qui n'étaient pas en 2014
c'est
au Brésil.
Énorme.
Dont effectivement 4 africaines. Donc ça représente quand même un renouvellement du plateau et quelque part...
40%.
C'est quand énorme. C'est quand même intéressant parce que c'est quand même l'essence même du sport.
Rémy, quelle explication vous y voyez, notamment eh bien vos Lions indomptables qui sont champions d'Afrique et qui ne disputeront pas la Coupe du Monde?
Il faut se dire que c'est une très bonne nouvelle parce que depuis un certain temps, les gens disent quand même les Lions indomptables, c'est une grande équipe qui manque. Non, c'est archi faux. Depuis 1998...
Non, physiquement, ils ne sont pas là. Après, grande équipe, ça dépend.
Depuis 1998, les Lions indomptables n'ont gagné qu'un seul match en Coupe du Monde. C'était contre l'Arabie Saoudite, 1-0 en 2002. Donc, entre-temps, fessé, dernier de la poule, avant-dernier, on ne peut pas continuer...
Donc, il vaut mieux pas y aller.
Ça ne vaut pas la peine d'y aller que d'aller humilier chaque fois l'Afrique comme ça. On dit tout le temps que, bon, voilà, c'est une grande équipe. Non, on a remporté la CAN, mais c'était un hasard, une circonstance. Même en Afrique du Sud, les Lions indomptables étaient la première équipe à être éliminée sur le continent africain et ont été classés.
Donc, 31e
sur 32. Donc, à une certaine période, j'ai dit, c'est logique. Et maintenant, quand vous regardez les autres équipes qui manquent...
Oui, le Ghana, par exemple.
Parce que ces équipes-là sont bâties exactement comme les gouvernements et le continent africain. C'est-à-dire, les vieux sont là, ne veulent pas partir. Regardez, c'est les mêmes vieux du Ghana qui continuent à jouer. On dit, nous, ils sont très bons, on va faire ceci. Mais chaque fois, ils échouent comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé avec la Côte d'Ivoire? C'est la génération avec les Gervinho et tout, et tout, et tout. Des gars qui ont déjà la lordose, la scoliose, qui ont toutes sortes de rhumatismes, qui, au lieu de prendre la maison de retraite comme Mugabe, mais veulent toujours être avant centre. Donc, c'est ça, l'Égypte qui revient.
Ils n'ont pas fait jouer leur femme, quand même.
L'Égypte qui revient se présente à la CAN, par exemple, avec un effectif, c'est-à-dire que sur les 23 joueurs, 19 disputaient pour la première fois une CAN. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, on renouvelle, c'est la même chose qui est arrivée en Italie, avec une bande de vieillards claudiquants qui ne pouvaient pas tenir debout. Comment est-ce que vous voulez construire avec toujours...
Les dirigeants italiens ne sont pas à cette image-là. Patrick Juillard, il y a du vrai dans ce que dit
Alors, sur
Rémy.
Le Cameroun, on ne peut pas lui donner tort. Effectivement, le Cameroun, depuis le début des années 2000, se qualifie très régulièrement, mais est toujours ridicule, avec en plus des histoires de primes qui donnent quand même une image un peu déplorable
à chaque compétition de
cette équipe.
Ça, oui.
On l'a vu lors de la dernière Coupe des Confédérations, durant laquelle ils représentaient la zone Afrique. Ils ont été catastrophiques, il faut le dire. Ils ont même, contre des équipes a priori à leur portée, ils n'ont pas du tout fait illusion. Donc c'est vrai que le Cameroun, il y a une remise en question à faire. La CAN n'était peut-être pas un hasard. Un tournoi peut générer une dynamique de groupe positive.
Oui, ce qui s'est passé,
le Cameroun n'a pas volé sa victoire. Mais c'est vrai que ça ne semble pas correspondre à un travail de fond.
Ah, c'était une loterie, mon cher. Faut pas nous flatter.
Je vous dis que ça ne correspond pas à un travail de fond. Après, sur les autres équipes, toutes n'ont pas un réservoir non plus infini. Le Ghana, c'est quand même une déception, puisqu'on se rappelle que dans cette poule qualificative, ils étaient avec l'Égypte, qui est une grosse équipe, mais avec l'Ouganda et le Congo, qui la République du Congo, ils sont pas des grosses équipes et ils ont commencé par
mais le Ghana n'a pas gagné le Ghana n'a pas gagné l'Ouganda depuis
2 points sur les 3 premiers matchs. Donc c'est ils étaient morts d'entrée, ils se sont tués eux-mêmes.
Antoine,
retard à l'allumage catastrophique.
De toute façon, on pouvait pas avoir les mêmes équipes qu'il y a 4 ans puisque certaines qualifiées du Brésil se retrouvaient dans la même poule
et notamment l'Algérie et le Cameroun.
Et le Cameroun, donc on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait forcément des changements. Pour une fois, je vais être d'accord avec Rémine Gonneau, donc je vais pas allonger le débat plus que ça, mais c'est vrai que quand ces équipes ne sont pas renouvelées en Afrique comme en Europe, eh bien évidemment, on encourt une forme d'usure, manque de compétitivité, les résultats le prouvent.
Finalement, la vraie grosse surprise, c'est peut-être simplement la présence du Sénégal qui revient après sa dernière participation en 2002, qui est une très belle génération,
Je suis d'accord, mais pour moi la vraie grosse surprise c'est plutôt le Maroc, parce que dans cette poule assez dense avec la Côte d'Ivoire qui sur le papier est quand même, et c'est l'équipe gagnante de la CAN 2015, c'est récent, qui a une plus grande expérience que le Maroc des gros matchs décisifs. Le Maroc a fait une vraie performance, 0 but encaissé lors de la phase de poule. Et puis la Tunisie quand même gagner avec en allant chercher la qualification à Kinshasa, c'est pas mal.
Antoine.
Et le Nigeria aussi, la présence du Nigeria est assez intéressante parce qu'ils étaient là déjà en 2014, mais entre-temps,
c'est la deuxième équipe africaine en termes de participation à la Coupe du Monde.
Depuis 94,
le Cameroun 7 participations, le Nigeria 6.
C'est à croire que le Nigeria ne se concentre que sur la Coupe du Monde, parce que depuis le sacre de 2013 à la Coupe d'Afrique des Nations, ils n'ont rien fait.
Non, mais justement, c'est ce qui s'est passé. C'est que à la Coupe du Monde 2010, lorsque le Nigeria perd contre la Grèce, c'est-à-dire, et rentre, il y a le président qui s'appelle Goodluck Jonathan, qui dit, mais attendez, on va tout rebâtir. Et il dit, je ne veux même plus une équipe du Nigeria en compétition pendant au moins 2 ans. Donc, il faut savoir que c'est à partir de là qu'il y a ce qu'on peut appeler une régénération, une renaissance du football nigérien. Donc, quand vous me dites aujourd'hui...
Et il gagne la CAN en 2013.
Et il gagne avec des jeunes. Alors qu'il y avait des anciens là, c'est pour ça qu'on dit que si vous ne voulez pas renouveler, bien évidemment, vous allez vous retrouver sur des vieilles pacotilles avec des noms ronflants. Mais c'est bien beau. Mais le problème, c'est que ces gens n'ont que des noms, comme exactement je vous disais avec le Ghana, c'est des noms ronflants. Mais il y a un proverbe africain qui dit qu'on ne juge pas le cheval par sa selle.
On sait quand même.
Que dire à ça?
Non, mais ils connaissent son cheval.
Je trouve que l'ossature du Nigeria bénéficie quand même de l'expérience de la première ligue de beaucoup des titulaires de cette équipe. Hein. Sur l'équipe entière, il y en a au moins la moitié qui sont titulaires dans des clubs de première ligue, comme Ndidi à Leicester. Il y a Iwobi qui est pratiquement titulaire, enfin qui est un joueur régulier d'Arsenal. Il y a Nacho qui était à Manchester City, qui était un joker, qui est maintenant plus souvent titulaire à Leicester.
À Chelsea.
Il y a Victor Moses qui est vraiment blessé, un des hommes clés de Chelsea. Mmh. Mmh. Donc ça fait quand même beaucoup de joueurs qui ont un bon temps de jeu dans un grand championnat. Et Gernot Rohr, comme sélectionneur, est quelqu'un qui arrive bien à ménager les égos, qui est un bon diplomate et qui sait créer un esprit collectif.
Et le Nigeria, on se souvient, en 94, leur participation, ils se sont retrouvés face à l'Argentine et on connaît après en Coupe.
Et face à l'Italie,
au JO.
C'est quand même la seule sélection africaine qui est sortie 3 fois des poules. Mm-hmm. Ils sont sortis en 94, ils sont sortis en 98, éliminés par le Danemark, et ils sont sortis en 2014, éliminés par l'équipe de France.
Exactement.
Donc c'est le pays qui finalement...
D'ailleurs l'objectif là pour eux c'est carrément quart de finale quoi. Ils veulent faire mieux que d'autres participations.
Oui, c'est assez cohérent compte tenu du potentiel qu'il y a dans ce pays.
Et c'est que en fait le Nigeria c'est quoi? C'est qu'on découvre toujours une nouvelle génération, mais c'est vrai que cette génération que vous êtes en train de citer n'est pas comme celle de 94 et qui avait quand même gagné la CAN, avait remporté les Jeux Olympiques et où on pouvait trouver par exemple les Yekini, on avait Okocha, Mokashi et tout parce qu'Okocha à cette époque on l'appelait le Garincha africain. Donc ça, c'était une équipe qui était très très forte. Celle de maintenant, elle a des lacunes sur le plan défensif. Et ça, je trouve ça un peu dangereux par rapport à sa façon de se construire. Donc le Nigeria aujourd'hui, c'est bien de faire des bonnes prestations, mais il faut aussi se dire que le Nigeria n'a jamais fait une mauvaise prestation contre l'Argentine. Souvenez-vous que même en Afrique du Sud,
ça les motive beaucoup.
D'ailleurs, ils avaient remporté les Jeux Olympiques d'Atlanta. C'était contre l'Argentine. 3-2.
Donc, il y a quelque chose de nouveau, Rémi, pour le Nigeria, c'est que depuis ces dernières années, il bénéficie de l'apport de joueurs binationaux, ce qui n'était pas le cas dans les années 90. Et on voit par exemple aujourd'hui la défense centrale, Trou Stekong et Balogun, c'est un néerlando-nigérian et un germano-nigérian. Donc c'est vraiment une nouveauté.
Xavier, une autre chose qu'on remarque aussi, c'est que le Maghreb est très largement représenté de pays sur trois. On a la Tunisie et le Maroc, le Mashrek, si tant est qu'on y intègre l'Égypte. Et en plus, on a l'Arabie Saoudite. On n'a jamais eu autant de pays de langue arabe représentés. Et on pense en plus qu'en 2022,
il y aura déjà le Qatar.
Voilà, exactement. Oui. Oui. Dans un pays arabe se déroulera cette Coupe du Monde.
Oui, on peut rappeler quand même qu'en 1986, au Mexique, la représentation africaine était 100% maghrébine, puisqu'il y avait l'Algérie et puis le Maroc. Mmh. Et le Maroc était d'ailleurs la première équipe africaine à accéder au deuxième tour, après un succès sur le Portugal. Donc il y a effectivement des bons résultats d'ensemble des équipes maghrébines. Maintenant, et j'ai commenté la qualification de la Tunisie sur Canal Plus Sport.
C'était
pas terrible, faut bien le dire. C'est solide, c'est costaud.
On le disait d'ailleurs ces jours-ci que c'est peut-être l'équipe la plus faible de ce plateau.
Et de toutes les façons, depuis les Coupes du Monde, je crois que la première fois que la Tunisie s'est retrouvée là, elle était dernière de sa poule en Coupe du Monde et quand elle est encore repartie, dernière toujours de sa poule.
La Tunisie est la première équipe africaine à avoir gagné un match de phase finale. C'était en 1978 contre le Mexique, 3-1. Donc ouais, ça, il faut s'en rappeler. Hein, c'est pas rien. Maintenant, c'est vrai que le réservoir est par nature plus limité, mais c'est assez cohérent. Mais c'est une équipe quand même, c'est vrai, qui a tendance à pas mal subir le jeu.
Ça subit parce que même
il manque un peu de fond de jeu.
C'est vrai que ça aurait été plus sympa pour le spectacle d'avoir la RD Congo. Parce qu'il y a des joueurs exceptionnels qu'il n'y a pas en Tunisie. Mais maintenant, il y a plus de cohérence en Tunisie. Ils sont allés chercher ce résultat nul décisif à Kinshasa, alors qu'ils étaient menés 2-0. Ils ont arraché le 2-2 de façon incroyable.
C'est costaud, ça.
Et donc, c'est vrai qu'il y a une solidité qui s'explique aussi par un élément qui est non négligeable dans la politique générale du football actuel. C'est que la plupart des joueurs tunisiens jouent dans le championnat tunisien. Donc, il y a une vraie cohérence, une vraie homogénéité de ce groupe. C'est pas spectaculaire, mais c'est solide.
Les matchs de Ligue des Champions africaines leur donne l'habitude des rencontres à enjeu et à l'extérieur, ils ne sont pas intimidés quand ils vont jouer à Kinshasa ou
en Afrique australe. On peut rappeler que l'Étoile du Sahel et l'Espérance de Tunis ont été loin, ont passé les phases de groupe, étaient en quart de finale et en demi-finale de Ligue des Champions
et
africaines.
Même le club africain
pour le Maroc, le Wydad Casablanca est champion d'Afrique, est allé jusqu'en finale. Et pour l'Égypte, le National du Caire est en finale. Donc il y a une forme de cohérence.
Les sélections nationales reflètent
la solidité des sélections nationale
et les bons résultats des clubs.
C'est la cinquième fois que la Tunisie et le Maroc vont participer à la phase finale.
Mais par contre, ça joue pas en faveur de l'Afrique du Sud qui a aussi de bons résultats, mais pour l'instant ça ne se transmet pas à l'équipe nationale.
Oui. Parmi les grands absents de cette Coupe du Monde d'une façon générale, alors on a beaucoup parlé de l'Italie cette semaine, on a un petit peu moins eu le temps d'en parler parce que leur élimination était pratiquement claire depuis plusieurs semaines, c'est celle des Pays-Bas, hein, qui se sont fait éliminer au dernier jour par la Suède qui était barragiste et qui s'est donc qualifiée. L'absence des Pays-Bas, parce que finalement on a regardé, ils participent 8 fois je crois et 5 fois ils vont dans les phases finales où ils font des demi-finales, où ils font des quarts de finale, voire des finales. Les Pays-Bas, vous le mettriez
parce qu'à l'échelle de l'Europe, les Pays-Bas, c'est pas un grand pays, c'est pas un pays très peuplé, ils sont 14 millions.
8 participations en Coupe du
Monde. Voilà, ils n'existaient pas jusqu'aux années 70, c'est un pays qui n'avait pas participé à la Coupe du Monde.
Et tout d'un coup, 74-78, deux finales.
Voilà, ils arrivent avec la génération Cruyff, ils disparaissent ensuite dans les années 80, au début des années 80, ils reviennent
à la fin des années
avec la génération Gullit Van Basten, ils redisparaissent après, ils reviennent avec Van Basten d'ailleurs entraîneur en 2006, et puis également 2010 ils sont en finale et 2014 ils finissent troisième. Et puis là visiblement il y a un trou de génération. Alors comment l'expliquer? C'est un peu difficile parce que on en avait parlé d'ailleurs avec Sherif Guebourg. Oui, alors eux ils sont mais la relève est là pourtant. Voilà. C'est ça qui est assez incroyable, c'est que les Néerlandais ont été champions d'Europe des 17 ans en 2011 et 2012 avec des garçons de talent comme Nathan Ake qui joue en première ligue. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à grandir, enfin suffisamment en tout cas, pour arriver à se qualifier pour cette Coupe du Monde.
Eh oui, les Pays-Bas parmi donc les éliminés. À noter que le 1er décembre prochain aura lieu le tirage au sort à Moscou. C'est la fin de la première partie, on se retrouve après la pause.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Deuxième partie de ce Café des Sports sur Radio Foot International et sur RFI avec Rémi Ngono, Xavier Barré, Patrick Juillard et Antoine Grenier. C'est la fin, en tout cas, de cette période internationale, de tous ces matchs de sélection. Retour au championnat, retour au club, et bien avec un week-end marqué par des derbies.
Madrid, Madrid, tu peux me faire signe, tu peux brouiller mes mots sur la ligne quand je parlerai de toi.
Madrid, Madrid, avec des colchoneros et des merengues face à face, un match très important et pour les deux équipes. Avec d'un côté, eh bien, l'Atlético au Madrid qui n'a remporté que 2 victoires en 5 matchs de Liga. Aucun but, surtout pour Antoine Griezmann au cours des 7 derniers matchs. Et pourtant, vous allez l'entendre, Grisou, il s'est encore trouvé le chemin défilé.
Ce bloc rouge finira bien par céder, par se craqueler, comme il le fait là avec Griezmann.
Oh d'Antoine Griezmann, 1-0 pour les Bleus.
Un but marqué contre le Pays de Galles avec donc l'équipe de France. Et du côté du Real Madrid, eh bien c'est CR7, votre cher Cristiano Ronaldo, Rémi, qui ne marque plus un seul but en 11 journées, certes. Il a été absent durant 5 matchs puisqu'il avait été suspendu. On a l'impression quand même qu'il pouponne plus qu'il ne marque. Et il s'agace que ça agace les gens, même les plus proches, Antoine, n'est-ce pas ?
Oui, ça fait partie d'un des grands instants de sincérité de l'excellente interview qu'il a accordée à Thierry Le Marchand. Notre confrère de l'équipe. On lui parle de ses statistiques et du fait qu'il a habitué les gens à être à un tel niveau qu'on ne peut pas comprendre qu'il soit moins bon. Et il répond, ce qui est le plus bizarre, c'est quand ça m'arrive à la maison, quand je ne marque pas, ma mère m'interroge, mon fils m'interroge, ma sœur, mon frère, ils me disent, qu'est-ce qui t'arrive, comme si c'était la fin du monde. C'est quelque chose d'extrêmement marquant, ça, le fait que CR7, même sa famille, a l'air de ne pas le comprendre.
Rémi, est-ce que vous comprenez CR7 et dites-nous pourquoi, selon vous, ces buteurs sont en panne ? Ce sont quand même pour des raisons différentes.
Soit dit en passant,
dites-le.
Beaucoup de gens oublient maintenant le fonctionnement de Cristiano Ronaldo. La saison dernière, en phase de poule de Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo était à 2 buts pendant toute la phase des poules et tout le monde disait « il est mort ». Aujourd'hui, on dit que c'est lui qui doit remporter le Ballon d'Or, il n'y a même plus compétition, c'est lui qui enchaîne les FIFA, c'est lui qui enchaîne en même temps les bébés, oubliant que Cristiano Ronaldo, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui sait aujourd'hui ses réserves. La saison dernière, ça ne marchait pas en début de compétition au niveau de la Ligue des Champions, mais ça marchait en Liga. Cette fois-ci en Liga, quand moi je vois Cristiano Ronaldo jouer, je le trouve beaucoup plus en jambes. Et il faut aussi savoir que la préparation de janvier...
L'amour
de
en aveugle.
Ronaldo,
l'amour en aveugle, Rémi.
Non, attends. La préparation de janvier, qu'est-ce que j'avais dit ici? Ici, c'est-à-dire que en janvier 2017, qu'est-ce qu'on avait vu? Cristiano Ronaldo, pendant que Xavier Barré était en train de me dire qu'il était incapable de pouvoir encore avaler quelques kilomètres de course, on nous a dit que en janvier, il est passé de 30 km/h à 32 km/h. Pour vous dire que Cristiano Ronaldo est comme du bon vin. Plus il vieillit, plus il se bonifie. Et Cristiano Ronaldo
est bon vin, alors.
Cristiano Ronaldo est comme les adultes. Donc, il ne fait pas la course du matin, il finit la course le soir.
Rémi, c'est quand le prochain but ?
Le prochain but, c'est le 6e Ballon d'Or.
En fait, Cristiano Ronaldo utilise le vélo de Fabian Cancellara, donc c'est ça. Non mais Rémi, sérieusement, il marque un peu le pas, Cristiano Ronaldo, il faut quand même le dire clairement.
Tu le dis depuis 4 ans.
Ce qui me frappe, c'est... Non, moi personnellement, j'étais pas là il y a 4 ans d'abord, donc c'est pas
donc
vrai.
Donc tu es né hier.
Non, mais ouais, j'étais pas dans le café des sports il y a 4
possible.
Ans. Ensuite, ça montre surtout que Cristiano Ronaldo a changé dans son style de jeu. C'est devenu un pur buteur. Vous parlez de courses, mais justement, Cristiano Ronaldo ne fait plus les courses qu'il faisait lorsqu'il jouait à Manchester United. C'est devenu un joueur qui est un finisseur. C'est, en gros, sans vouloir être désobligeant.
La course
vous allez bondir.
Pour donner le but à Isco. Combien de
c'est une
stratosphérique,
c'est une fusée,
c'est un démarrage.
C'est devenu un super Cavani,
ça,
Ronaldo.
Mais ça pose un
c'est
problème,
devenu un sprinter, d'ailleurs, il va faire le 100 mètres pour les Jeux Olympiques.
Non, mais. Il remplacera Usain Bolt.
On voit Cristiano Ronaldo. Il
Xavier,
peut pas se coucher à
une il y a, bon, Cristiano Ronaldo a un creux méforme, et Griezmann.
Non, mais c'est des garçons qui sont sous pression en permanence.
Ah, ben oui.
C'est vrai pour Cristiano Ronaldo, c'est vrai pour Griezmann.
Ne comparez pas le lièvre au kangourou.
Mais non, ils vont être face à face, Rémi.
La seule différence,
on est obligé de les comparer.
La seule différence, et elle est fondamentale, et ça, Rémi Ngono, l'a peut-être pas compris, mais je vais l'expliquer, c'est que, au Real Madrid, et c'est Zidane lui-même qui l'a déclaré, tout le monde court, sauf Cristiano. Qui marque. Il l'a dit en conférence de presse il y a quelques semaines, ça avait d'ailleurs surpris certaines personnes dans l'assistance, ça avait fait sourire d'autres. Il a dit non, Cristiano, lui, il est là pour marquer, donc s'il court moins, c'est pas gênant. En revanche, à l'Atlético, Griezmann, il est au même régime que les autres. Il doit courir tout le temps pour récupérer le ballon. Il en a d'ailleurs plein les bottes. Et donc, il l'avait même dit, et je me souviens, j'étais au Stade de France lorsqu'il avait fait cette confidence, il avait dit non, en équipe de France, on court quand même moins qu'à l'Atlético. Il y a quand même moins d'exigences dans le pressing parce que les rôles sont répartis différemment. Et donc, il y a évidemment un moment où il y a une forme de fatigue, de lassitude pour Griezmann de la part de l'Atlético. On sait d'ailleurs qu'il a failli partir cet été, qu'il partira probablement la saison prochaine et qu'il a envie de pratiquer un foot différent. Peut-être qu'il pourra prendre la place de Cristiano Ronaldo au Real et ne plus courir comme il le fait actuellement à l'Atlético.
Dernier Atlético contre Real Madrid, Atlético 102 km. Real Madrid 110 km.
Couru pendant le match.
Pendant tout le match. Et au but, en fin de match, 3-0. Et pour les dernières confrontations, Griezmann contre Ronaldo, Ronaldo marque 6 buts en 2 matchs à Oblak. Griezmann ne cadre pas un tir pendant 2 matchs. Et vous voulez les comparaisons?
Antoine.
Et quand on parle, il faut quand même préciser aux auditeurs de RFI. les téléspectateurs de Canal, c'est ce soir. Les auditeurs de RFI, il faut préciser que quand le Real court 110 km, c'est pas Cristiano Ronaldo, c'est les 11 joueurs, enfin même le gardien.
Ce n'est donc pas Griezmann qui fait tous les 102 km.
Non plus.
Non, mais c'est peut-être mieux réparti à l'Atlético.
Vous ne pouvez pas dire que.
Il y a Antoine qui voudrait parler, messieurs.
Les efforts sont peut-être mieux répartis à l'Atlético.
Juste préciser que, de toute façon, ce qui intéresse Cristiano Ronaldo, cette saison, c'est évidemment la Ligue des Champions, mais la Ligue des Champions, elle commence à se jouer en 2018 en réalité pour le Real, parce que avant, il n'y a pas besoin d'être réellement en forme pour sortir, quand on s'appelle le Real Madrid, de la phase de groupe.
On l'a vu à Tottenham d'ailleurs.
Après, il va
sortir en la poule.
Ils vont sortir de la poule, a priori.
Pas besoin de jouer pour sortir vainqueur.
Après, Cristiano Ronaldo, il a un autre objectif, c'est la Coupe du Monde. Et s'il est en forme en début de saison, la Coupe du Monde qu'il va faire avec le Portugal en tant que champion d'Europe, on le rappelle, s'il se loupe, ça va forcément peser. Donc, je le suspecte de faire exprès de ne pas être en forme maintenant pour s'économiser.
Pour
monter en puissance au fur et à mesure de la saison.
Il se gère, quoi.
Comme d'habitude. Ouais. Les ballons d'or viennent, s'enchaînent, et chaque année, en début de saison, Cristiano Ronaldo, oh là là, il a une pompe, oh là là, il ne court plus, oh là, il a vieilli, le papa. Mais attends.
Bon, allez, on attend le 7 décembre, Rémi. En tout cas, bien, on attendra le résultat et ce match ne manquera pas d'intérêt du côté de Madrid. Maintenant, autre direction. Après Nilda Fernandez, ce sont les Clash. Les Clash pour nous transporter du côté de Londres. Ben, c'est un autre genre. Avec le derby de Londres. Même s'il y a de nombreux clubs dans cette ville qui jouent en première ligue, 5 sur 20, celui-ci, c'est le derby selon vous, Antoine Grenier.
Quel derby?
C'est le.
Entre
il y a tout un tas de clubs à Londres. Mais le derby historique, la détestation qui peut exister entre deux clubs, c'est Arsenal et Tottenham. Demandez à Saul Campbell quand il a quitté Tottenham pour aller à Arsenal, il s'est retrouvé couvert d'insultes. Enfin, ça a été très très dur pour lui à l'époque.
Il y avait même des panneaux Judas.
On remonte un petit peu loin dans le temps. Mais le vrai derby londonien, c'est ce Arsenal-Tottenham.
En tout cas, entre deux équipes, donc Arsenal et Tottenham, qui partagent bien les mêmes ambitions, évidemment, être dans le haut du classement de la Première Ligue. L'un est sixième, c'est Arsenal, les Gunners, alors que les Spurs sont troisième. Pour l'entraîneur Arsène Wenger, si vous ne battez pas Tottenham, vous êtes mort, a-t-il déclaré. Réponse de son homologue Mauricio Pochettino.
Arsenal, c'est vraiment une grande équipe. Pour moi, il n'y a pas de favori dans ce genre de rencontre. Arsène Wenger est un manager fantastique. Je le respecte beaucoup et je l'admire. Dans ce genre de derby, il est difficile de donner un favori. Mais dans l'histoire, Arsenal a été au-dessus lors des 20 dernières années. Et Arsène Wenger mérite beaucoup de reconnaissance. Si vous restez 5 ans dans un club, c'est que vous êtes un bon entraîneur. Si vous restez 10 ans, c'est que vous devez être très bon. Mais si vous restez plus de 10 ans, c'est vraiment que vous êtes exceptionnel. Évidemment, il connaît mieux que moi ce que représente ce derby. Ça n'est pas qu'une question de performance, de bien jouer ou de mal jouer. Ça signifie beaucoup plus. Pour nos supporters, ça a vraiment une grande importance.
Patrick Juillard, Pochettino dit Arsenal a été au-dessus durant les 20 dernières années. Est-ce que Tottenham actuellement est passé au-dessus d'Arsenal ?
Alors moi je trouve que sur la qualité de jeu depuis disons
deux saisons, il termine deuxième de Première Ligue.
Voilà. Non, il y a deux ans, c'est Arsenal qui est deuxième.
Voilà,
c'est
derrière Leicester, c'était Arsenal, mais l'année dernière, c'était Tottenham. Voilà. Bon, mais en tout cas sur la qualité de jeu, je trouve que la puissance émergente en Première Ligue, c'est Tottenham, c'est pas Arsenal. Arsenal est plutôt une puissance déclinante sur les deux trois dernières saisons, quand même. Il y a ça s'étiole un petit peu. Il y a moins de le football champagne que pratiquait Arsenal dans les meilleures années d'Arsène Wenger dans les années 2000. Les bulles se sont un petit peu évanouies. C'est un peu moins pétillant. Mais évidemment, Mauricio Pochettino, il essaye de mettre la pression sur Wenger.
Oui, évidemment. C'est eux qui reçoivent.
Voilà. D'ailleurs, les deux, la manche retour aura lieu. Tottenham ne joue plus sur son stade. Il joue à Wembley le temps des travaux. Ah oui. Donc ça a perdu de sa saveur. Alors que White Hart Lane était vraiment un stade difficile avec une pression forte du public.
Ouais, mais dans le nouveau stade, justement, ils ont tenu compte de ça dans le nouveau stade qui est en construction, effectivement, le nouveau White Hart Lane. Ils ont maintenu, justement, le fait que les tribunes soient très proches et ils ont construit un mur blanc. Sur l'inspiration du mur jaune de Dortmund pour que le public soit justement là derrière les joueurs.
Mais en attendant, ils jouent dans un stade un peu sans âme.
Pour le moment, ils jouent à Wembley, ça se passe pas trop mal parce que la saison dernière, ils avaient tout perdu à Wembley. Voilà. Cette saison, ils arrivent quand même à gagner. Et ce qui est important quand même pour une équipe comme Tottenham, c'est d'arriver à jouer sur tous les tableaux là où ils n'avaient pas cette habitude. Et il faut reconnaître que de ce point de vue-là, Pochettino arrive à obtenir des résultats intéressants.
Rémi, Tottenham favori?
Bien sûr. Le problème.
Mais, attendez. J'ai tendu la perche.
C'est cadeau. Pochettino, qui est en train de faire un discours d'un propagandiste
d'un
régime africain. Mais attendez. C'est exactement comme ça qu'on dit dans des régimes africains. Oh, vraiment, rester au pouvoir 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans jamais être parmi les plus grandes puissances du monde. Et puis, vous tapez la poitrine. Ah, mais Arsène Wenger n'a jamais gagné une Ligue des Champions. Et alors? Zidane vient là, il rapporte deux Ligues des Champions. Il faut qu'on cesse avec Arsène Wenger. Plus il va, plus il est médiocre.
Parlez-moi de Tottenham, ne parlez pas d'Arsène Wenger.
Concrètement,
qu'est-ce qu'a gagné Tottenham, qui est un club que j'apprécie aussi pour la qualité de son jeu? Mais qu'est-ce qu'a gagné Tottenham la saison dernière?
Aujourd'hui, au moins je t'ai dit.
Qu'est-ce qu'a gagné Arsenal? La Cup. Pour la troisième fois en 4 ans. La septième fois du règne d'Arsène Wenger. Record d'Angleterre. Donc, il ne faut pas dire que Arsenal n'a rien gagné.
la Coupe de Tottenham, quoi.
Parlez-moi
moi,
de Tottenham.
Il y a un proverbe africain qui dit, les années ne font pas des sages, les années font des vieillards. Là où est Arsène Wenger aujourd'hui, il n'a plus la possibilité de créer quoi que ce soit. Et moi, je dis, quand je vois Pochettino est venu avec Tottenham, moi, j'ai vu Tottenham devant le Real Madrid. C'était très, très compliqué. C'était très, très difficile pour le Real. Et d'ailleurs, ils ont battu totalement le Real, ce que Arsenal ne fera jamais. Devant L'Oréal,
attends,
vous êtes en train de jouer les troupes du village. Troisième. Ils ont remporté la coupe. La coupe, c'est quoi? C'est la coupe du village.
C'est la plus vieille compétition au monde. La plus vieille compétition de football au
troisième
monde.
Troisième derby.
Tous les 200 personnes. Florence, Milan. S'il y a le temps, week-end, week-end.
Allez, du côté de Rome, il y aura au Stadio Olimpico un match très important entre la Roma et la Lazio, Patrick Juillard. Mais c'est peut-être pas le match le plus important, en fait, peut-être le plus chaud, mais peut-être pas le plus important du championnat italien, parce qu'on a un Naples-Milan, et Naples invaincu jusqu'à ce jour en Serie A.
Voilà, Naples qui est vraiment, Xavier Barret parlait de Tottenham, qui maintenant sait jouer sur les deux tableaux. Naples, pour le coup, aurait intérêt à se concentrer vraiment sur la Serie A, puisque Naples n'a sans doute pas l'effectif assez large pour jouer aussi à fond la Ligue des Champions. Et c'est ce qu'ils arrivent à faire pour l'instant. Ils sont impressionnants défensivement, dans l'utilisation du ballon, dans la qualité de jeu. C'est une symphonie à regarder, c'est magnifique.
Et pour l'instant, ils sont devant la Juve, surtout, ce qui est quand même pas si souvent ces derniers temps en Italie.
Quand on voit en comparaison les prestations de l'équipe nationale italienne, bon, ça fait rêver.
Oui, mais il n'y a pas d'Italien à Naples.
Il y a Insigne que Ventura ne faisait pas jouer.
Bon. Oui, il y a Insigne, donc c'est tout. À la Roma, il n'y en a pas beaucoup plus. Et c'est ça le drame.
Il n'y a pas d'anglais dans les équipes anglaises.
C'est pas vrai, Annie. Regardez Tottenham, auquel on vient de tresser des louanges. C'est la moitié de l'équipe d'Angleterre. À juste titre, d'ailleurs. Il y a Dele Alli.
Oui, heureusement, parce qu'il y a d'autres équipes. Il n'y en a pas beaucoup.
C'est vrai.
On y viendra sur ces équipes italiennes et surtout sur les résultats lundi.
Mariano Diaz qui va donner à Nabil Fekir l'occasion de réussir un doublé face à Stéphane Ruffier. C'est fait. Il a attendu justement que la 85e arrive pour marquer son deuxième but ce soir, le doublé pour Nabil Fekir. Et il va chambrer à 5-0. Ça vaut vraiment pas le coup.
Et il a chambré, et sans doute à juste titre, puisque Nabil Fekir et l'OL ont battu Saint-Etienne. C'était lors d'un derby justement en Ligue 1, et un derby très chaud, à tel point que Saint-Etienne se retrouve dans le creux de la vague, peut-on dire, parce que l'entraîneur a claqué la porte, l'Espagnol Oscar Garcia, qui avait pris le poste de Christophe Galtier en fin de saison, on s'en souvient, il est parti, peut-être à cause de la déroute. Sans doute aussi, y a-t-il d'autres raisons. En tout cas, les Verts vont aller jouer chez les Dogs avec un nouvel entraîneur à assurer, Roland Rohmeyer, qui a nommé Julien Sablé à la place.
Dès que j'ai senti que Oscar avait des envies de partir, je suis allé voir Julien pour lui parler de la situation. Je lui ai dit, est-ce que je peux compter sur toi si Oscar part ? Il m'a dit, je vais réfléchir, deux minutes, là. J'ai fait le tour du bureau à côté, et je reviens. Il me dit, voilà. Aujourd'hui, Julien est l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne. Ce n'est pas un intérim. Je connais Julien pour toutes ses qualités. C'est un enfant du club. Il en connaît l'histoire, les valeurs. Il a l'esprit club. Il connaît l'environnement. Il a du charisme. Il a du caractère. C'est un rassembleur. Et surtout aussi, depuis que je lui ai confié des responsabilités au centre, c'est un gros travailleur.
Xavier Barret, Julien Sablé, donc ancien joueur de Saint-Etienne pendant de longues années, qui se retrouve là, mais les problèmes subsistent, je suppose, parce que Oscar Garcia qui a claqué la porte.
Le problème de Saint-Etienne,
c'est l'issue d'un malaise, même si le club est sixième au classement.
Oui, le problème de Saint-Etienne, on l'a souligné souvent dans cette émission ces dernières saisons, c'est que c'est une équipe très solide. Galtier l'avait construite comme ça, hyper défensive et qui jouer le contre sur le talent individuel de ses attaquants, dont les plus talentueux sont partis au fil du temps, notamment Pierre-Emerick Aubameyang.
C'est un des derniers bons à être.
Voilà,
à
donc ils ont gardé ce système ultra défensif sans attaquant de qualité. Donc le meilleur score que pouvait espérer Saint-Etienne, c'était 0-0. Ils en ont fait beaucoup d'ailleurs. Et là, ils amènent Oscar Garcia, qui est un ancien du Barça, pour amener une nouvelle philosophie de jeu avec des joueurs totalement inadaptés. Donc forcément, les résultats n'étaient pas ceux escomptés, le message avait du mal à passer. Il y a une situation de rupture et Oscar Garcia, qui avait été champion d'Autriche avec le RB Salzbourg la saison dernière, a préféré partir pour travailler ailleurs.
C'était peut-être une erreur de recrutement aussi finalement, Oscar Alors, Garcia. On dit qu'il connaissait mal l'ambiance et surtout ce derby, à tel point qu'il avait voulu recruter un ancien de l'OL avec l'ancien joueur de Barça.
Mais ça c'était avant.
Non,
mais
de Barça, avec Eric Abidal. Il avait voulu le faire venir. Donc, très mauvais choix. Il avait peut-être pas senti l'esprit stéphanois, Patrick.
Alors, déjà, je voudrais un peu nuancer sur le profil d'Oscar Garcia, puisqu'on parle beaucoup de sa parente, enfin, de son lien avec le Barça. Alors, c'est vrai qu'il en vient, mais le jeu du RB Salzbourg, c'était quand même un jeu très dur avec un pressing très fort au milieu de terrain. C'était pas, c'était pas du Guardiola, quand même, hein.
Bah, donc, d'abord. Fait Barcelone
oui, mais disons que c'était quand même un jeu devant, où il y avait beaucoup de taloches au milieu de terrain, plus que de beaux jeux. Bon, ça, c'est une parenthèse que je referme. Ensuite, effectivement, le recrutement offensif n'a pas du tout été bien pensé.
Mais ça fait plusieurs années que ce recrutement offensif laisse à désirer.
Beaucoup d'argent a été mis sur un joueur qui s'appelle Loïs Diony, qui avait bien réussi avec Dijon l'année précédente, mais qui était dans une équipe où le schéma était vraiment fait pour lui et qui ne correspondait pas du tout à ce que Garcia voulait faire à Saint-Etienne. En plus, il était souvent blessé, il a eu un temps d'adaptation, bref, ça s'est très mal passé. Ça a un petit peu plombé Garcia, et en plus, il y avait un problème linguistique, il y avait un problème de compréhension des consignes et de ce qu'il voulait, donc c'était pas évident.
Rémi, sur les Verts, Saint-Etienne, passé glorieux, mais on voit pas tellement les ambitions ces temps-ci à la hauteur de ce passé.
C'est normal. Quand on s'appelle Vert et qu'on ne peut avoir que des fruits verts qui ne mûrissent jamais, c'est à ça qu'il faut s'attendre. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez citer comme grand joueur au niveau de Saint-Etienne? Saint-Etienne, c'est une grande équipe à l'époque.
Loïc Perrin, très bon défenseur.
D'ailleurs, leur dernier titre de champion de France date de 81, c'est-à-dire à l'époque, il y avait encore Platini.
Il y avait encore. Donc, à une certaine période, on m'a dit que Saint-Etienne voulait devenir le Bayern de Munich de la France, mais aujourd'hui, quand on essaie de regarder Saint-Etienne là, mais c'est plutôt une équipe qui n'a même plus le niveau de jouer parmi les cinq premières équipes de la France.
Sixième.
Ça ne vaut pas la peine. C'est aujourd'hui, moi je dis, à une certaine période, ils se sont mis là en se disant, avec deux présidents, on peut s'en sortir, mais attendez.
Ça fait 10 ans qu'ils sont là, les deux présidents. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'ils étaient qualifiés en Ligue Europa et ils n'en faisaient pas grand-chose, on peut dire aussi.
Bien sûr, mais ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que Saint-Etienne, c'est un club qui n'a pas énormément de moyens et qui se complaît presque dans cette situation. Finalement, le mercato, le précédent mercato, il a surtout servi à dégraisser, à réduire de 3 millions d'euros la masse salariale. Forcément, ça se retrouve au niveau du jeu. Et Roland Romeyer, le président, est connu, en tout cas réputé dans la Ligue 1, pour être toujours un peu réticent à sortir le carnet de chèques. Et avec un recrutement à 13 millions d'euros sur le dernier mercato.
Mais c'est dommage d'avoir mis la presque totalité des 13 millions sur un seul joueur.
Le choix de Julien Sablé, au-delà de son identité, etc.,
économique.
C'est également un choix pécuniaire. C'était certainement le moins cher. Ils auraient pu prendre un Roland Courbis ou un Eli Bob qui sont habitués à ce genre de mission. Bon, Eli Bob, il a déjà été à Saint-Etienne. Je ne sais pas s'il
a déjà fait ce genre de mission.
Il y a Antonetti qui était libre, mais qui est déjà allé aussi.
Mais qui sont beaucoup plus chers. Je pense que cet aspect-là a joué et ça risque de plomber la saison de Saint-Etienne. D'autant qu'il y a eu quelques petits soucis politiques dans la gestion des joueurs, notamment le cas Jonathan Bamba, qui est le meilleur buteur de Saint-Etienne et dont la prolongation de contrat a été un vrai problème et a fait que il a boudé,
il a été mis
à l'écart. Enfin bref, la gestion de l'effectif actuel pose
un
gros
compliqué.
Problème.
Il y a d'autres grands joueurs qui sont mis à pied, n'est-ce pas? Mais on y reviendra dans Radio Foot. Pour l'instant, destination les cartons.
Carton jaune.
Un carton là. Qui sort un carton jaune.
Ouh là 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 là, carton rouge.
Carton rouge.
Dans la confusion.
Carton vert.
Extraordinaire.
Rien à dire.
Avec votre carton, Xavier Barré.
Oui, Annie, vous me tendez la perche. Vous parliez de joueurs qui sont mis à l'écart, mis à l'amende. Et ben moi, je vais mettre un carton jaune à Pierre-Emerick Aubameyang, comme la couleur du maillot de Dortmund qu'il ne portera pas ce week-end en Bundesliga. Il a été mis à l'écart effectivement pour un troisième retard consécutif à l'entraînement. On peut se souvenir que déjà l'année dernière, il avait été sanctionné par un autre entraîneur, par Thomas Tuchel, parce qu'il était parti à Milan en goguette au lieu de rester se préparer pour les matchs. Le talent n'autorise pas tout, et quand on a le talent de Pierre-Emerick Aubameyang, on doit se montrer plus professionnel pour arriver vraiment au niveau où on l'attend.
Patrick Juillard, votre carton.
Moi, c'est un carton vert. Je crois que c'est ça pour la couleur positive.
Ah hein. Oui, oui.
Comme j'en mets jamais, je me rappelais pas. Avec Christian Eriksen, donc le milieu de terrain danois, auteur d'un triplé décisif lors du barrage retour contre la République d'Irlande. Joueur qui avait fait un début de saison un petit peu en dedans à Tottenham, dont on parlait tout à l'heure, et qui, on l'espère, a trouvé un déclic. Parce que c'est un joueur absolument, pour moi, sous-estimé, sous-coté, et il faut souligner le talent quand il est aussi évident. Voilà, et le président de Tottenham, d'ailleurs, dans une boutade, aurait dit qu'il vaut maintenant 225 millions d'euros, soit plus que Neymar, puisque le Barça est intéressé par ce joueur.
Eh bien, on le verra en tout cas en gros plan à la Coupe du Monde. Antoine, votre carton.
Carton vert.
Quelle couleur ?
Carton vert à Chapecoense.
Chapecoense.
Je crois que c'est la couleur de leur maillot, je crois, dans mon souvenir.
C'est la ville.
Un an après l'accident d'avion qui avait décimé l'équipe, qui a assuré son maintien à la 10e place du championnat brésilien. Quasiment un an, d'ailleurs, jour pour jour, à 2 semaines près. Un an, jour pour jour, après le triste accident d'avion. Voilà, petit carton vert pour une équipe qui a réussi à se reconstruire après le pire drame qu'une équipe puisse connaître.
Exactement, et en battant notamment Corinthians et Flamengo, ce qui étaient des exploits dans le championnat brésilien. Rémi Ngono,
j'aurais
rapidement
souhaité donner... Comme c'est moi, c'est toujours rapidement.
Eh oui, mais je suis après vous. Non, mais si vous voulez, je passe votre tour, Rémi. Parce que...
Ah oui, donc j'aurais souhaité donner le carton vert au Lyon du Sénégal, mais il y a un Sénégalais, Ibrahim Saounera, de ma page Facebook Rémingon officiel, qui donne plutôt le carton rouge aux joueurs sénégalais à la fédération. Parce que les joueurs sénégalais, il semble qu'ils sont actuellement en train de revendiquer des primes, des qualifications pour le mondial, des terrains de foot, des terrains, on ne sait pour quoi faire, des passeports diplomatiques et puis et tout. Donc, comme d'habitude, les joueurs africains et les fédérations, à la veille des grandes compétitions, sont toujours là à s'engouiller, à bagarrer pour de l'argent. Et comme le dit un proverbe africain, pendant que les chiens sont en train de se bagarrer, eh bien, le voleur profite pour dévaliser la maison.
Radio Foot International, n'ayant pas le temps à cause de Rémi de mettre son carton, un petit message personnel, carton rose à Daniel Ntumba, dont le grand fan du Barça pour son anniversaire aujourd'hui. C'est un fidèle auditeur de Radio Foot, donc il mérite. Et son grand frère Ben Loumou lui souhaitait donc bon anniversaire à travers nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Pierre Guérin qui m'a aidé à préparer l'émission et à Guillaume Ploquin qui est fidèle à la réalisation. À lundi.